bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là. C'est la première fois, je crois, que je viens à Alès. Oui, je suis désolé, je m'excuse de ne pas être venu plus tôt. Mais voilà, c'est une découverte un petit peu de la ville, alors très, très rapide. Mais voilà, c'est un plaisir d'être là et puis de faire aussi connaissance et d'apprendre un petit peu plus et de voir aussi certains atomes crochus que nous pouvons avoir aussi théologiquement. Voilà, donc je m'appelle Patrice Alexandor, je suis marié, j'ai trois filles, entre 10 et 24 ans. J'habite actuellement à Nantes. Avant cela, j'étais dans la région centre de la chaire, à Vendôme, c'est une jolie petite ville qui s'appelle Vendôme. Et avant cela, j'ai aussi eu un ministère pendant une quinzaine d'années dans la région de Grenoble. Depuis quelques années, je suis donc président de notre union d'église. Et comme ça a été dit, on vient de fusionner en fait avec une autre union d'église qui s'appelle Vision France. Et si je dois tracer un petit peu rapidement les contours de ces deux unions et ce qui est aujourd'hui de notre perspective.
Côté Vision France, c'est une origine assez ancienne, puisque les plus anciennes de ces communautés en fait remontent au début du 19e siècle, sous l'impulsion d'Ami Bost, qui a été un pionnier de l'évangélisation en Alsace. Il était issu d'une famille d'huguenots réfugiés à Genève et il a évangélisé en Alsace et donc des premières communautés, Colmar, Mulhouse, en 1820, ont été établies là en Alsace. Donc il y a du côté Vision France cette origine et notamment beaucoup marquée par le piétisme. Donc le piétisme, c'est un mouvement qui sort des églises luthériennes et plusieurs des missionnaires en fait, qui sont venus prendre la suite du travail d'Ami Bost étaient donc des prédicateurs piétistes et ils ont comme cela fondé plusieurs petites cellules piétistes et souvent dans le milieu piétiste, les personnes continuent à aller à l'église officielle, comme on dit outre-Rhin, l'église luthérienne, et puis se retrouvent l'après-midi voilà, pour étudier la Bible, pour prier ensemble. Donc ça a été un petit peu cette marque des églises de Vision France et se sont développées avec l'aide d'une mission qui s'appelle, où il y avait en fait une école biblique à Bâle, Sainte-Catherine, donc Krishna, donc parfois qu'on entendait Krishna, on disait Krishna, non c'est Krishna, ça n'a pas de lien avec Krishna, ces églises se sont développées essentiellement en Alsace, et puis depuis les années 90, un petit peu dans le Jura, et aussi maintenant sur la côte ouest, en Vendée. De son côté, France Mission a une toute autre origine, beaucoup plus récente. C'est dans les années 50 où un couple qui était à l'Institut public de Nogent, ils ont commencé à faire de l'évangélisation en Bretagne, donc en terre bien catholique et relativement hostile à la prédication des colporteurs évangéliques. Et donc, ça a été des années essentiellement d'évangélisation sous tente, distribution de Bibles en porte-à-porte. Et une association s'est créée, un comité s'est créé pour soutenir leur travail d'évangélisation, de prédication de la parole de manière relativement itinérante. Et les premières communautés sont nées à Dinard, à Montluçon, à Lourdes, à Guingamp. Et c'est à partir des années 70 que cette vision qui était essentiellement d'évangélisation, de prédication sous tente, etc., a été s'est transformé en une vision d'implantation véritablement d'église, où il ne s'agissait pas simplement d'évangéliser comme cela dans différents lieux et parfois une église peut naître, mais vraiment de se dire voilà, on va dans un lieu et on prie le Seigneur que véritablement une communauté puisse naître. Ce qui était donc essentiellement une vision donc, d'évangélisation est devenue mission d'implantation d'église et a évolué aussi maintenant dans les dernières années pour être véritablement une union d'église, puisque pendant des années, les églises, une fois fondées, pouvaient aussi rejoindre telle ou telle union d'église établie. Mais depuis une vingtaine d'années, on fonctionne aussi comme une union d'église qui garde vraiment un cœur de mission, d'implantation d'église. Ça reste une priorité pour nous. Et donc depuis 5 ans, nous avons travaillé avec Vision France en ayant ce même désir de voir des églises être implantées en France. En partageant aussi la même théologie, nous avons travaillé depuis 5 ans à un rapprochement qui s'est fait donc au mois de mai. Cette union maintenant s'appelle Perspective, où nous gardons la même vision forte pour l'implantation de nouvelles églises. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 82 lieux en France, dont une dizaine de ces lieux sont vraiment encore des postes d'implantation, certains tout récents, où on essaye de démarrer. On a beaucoup travaillé dans des villes moyennes et dans Paris intramuros. Ça a été pendant longtemps pour France Mission les deux axes de travail. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus diversifié. Simplement, il n'y a pas vraiment d'église dans le quart sud-ouest de la France. Voilà. Actuellement. Mais on a un projet pour dans un an à Toulouse. Cette réalité, alors je vais en réalité peut-être moins parler de la prédication que ce qui était annoncé. Mais comme il y aura aussi un temps de questions, on pourra largement revenir sur précisément cette question-là. Mais sur finalement tout ce qui, on pourrait dire, ce qui est l'écosystème que nous essayons d'encourager et de développer et qui doit aussi donner sens à la prédication. De pouvoir prendre aussi la prédication dans un sens aussi assez large. Et ces éléments viennent aussi d'un constat que nous faisons. C'est vrai qu'on a implanté des églises et la plupart de ces communautés se développent. Et au-delà d'ailleurs de France Mission, on pourrait dire que le protestantisme évangélique français est plutôt dans une dynamique de croissance, mais... dans un contexte quand même fortement marqué par la sécularisation, une société, on pourrait dire, post-chrétienne, si elle a été chrétienne un jour. C'est une réalité remarquable et réjouissante, mais en même temps, cette croissance est quand même très modérée. L'augmentation du nombre de pratiquants réguliers dans nos communautés évangéliques dépasse très légèrement le développement démographique de la population française. L'évangile semble continuer à se propager dans notre pays. On voit des communautés qui sont implantées de ci, de là, et c'est encourageant. On bénit le Seigneur pour cela. Mais finalement, tout cela reste très, très modeste. Lorsqu'on regarde la réalité de nos églises, à la fois on se réjouit de ce qu'on voit et en même temps on est conscient que l'impact finalement de notre prédication, de la prédication de l'Évangile, reste encore aujourd'hui très limité dans et à travers nos communautés. On constate que le dynamisme des églises existantes n'est pas si fort que cela. On a, même si on a des communautés qui voient des fruits dans la prédication, dans l'évangélisation, on a une part significative, à peu près 40% de nos communautés qui ne grandissent pas depuis des années. Donc c'est lié à la nature du cœur rebelle aussi de l'homme pécheur qui ne veut pas de l'évangile, mais peut-être pas que cela. Et donc on s'interroge aussi sur notre façon de vivre l'Église et de vivre et de prêcher l'Évangile. On se questionne aussi sur comment on amène des personnes qui découvrent le Christ à être aussi des hommes et des femmes mûrs dans la foi et capables aussi d'être des responsables, pouvoir développer des ministères, les ministères que Dieu donne. Et on s'aperçoit qu'il y a là aussi une grande faiblesse, finalement, lorsqu'on regarde de plus près les communautés. Moi, depuis une dizaine d'années, je circule dans nos églises, et pas seulement dans les églises de France Mission. Je suis frappé par le fait que dans beaucoup, beaucoup de lieux, je dirais même une large majorité des lieux, me revient sans cesse un petit peu de la part des responsables, de dire ben oui, on manque de personnes vraiment solides qui peuvent accompagner d'autres. Il y a ce refrain lancinant, et on s'est dit, mais finalement, quel est l'impact de la parole de Dieu dans les vies des hommes et des femmes qui sont dans nos communautés? Et puis, un troisième constat aussi, même si la multiplication est un thème important dans France Mission depuis de très nombreuses années, on s'aperçoit aussi que peu d'églises donnent naissance à d'autres églises. Donc très souvent, notre travail doit un peu partir de zéro avec des missionnaires qui doivent aller un petit peu tout seuls quelque part, parfois en équipe, mais sans toujours un appui direct d'une communauté qui, quelque part, porte le souci de l'Évangile dans un lieu proche qui va vraiment soutenir une nouvelle implantation pour voir une nouvelle communauté se créer, s'implanter, se développer. Donc ça nous interroge. Au milieu de toutes les choses positives et pour lesquelles on est encore une fois reconnaissant au Seigneur, et on démarre au moins une église par an depuis quand même quelques années, parfois deux nouveaux lieux de culte, mais ça, par rapport aux besoins de notre pays. Et si on prend l'ensemble des églises du monde évangélique, on peut se réjouir qu'il y a presque un nouveau lieu, une nouvelle communauté tous les 10 jours. Comme ça sonne très, très bien. Et c'est très bien, merci Seigneur. Mais il reste encore tant et tant à faire. Et de se dire, mais finalement, comment notre prédication, la prédication de l'Évangile, trouve écho dans les vies des croyants et aussi dans les vies de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et notre question, de se poser la question, mais finalement, que faire? Notre conviction a été que sans changement radical dans l'écoute et la dépendance de l'Esprit-Saint, ce qui est une faible addition aujourd'hui ne deviendra peut-être jamais la multiplication nécessaire pour que nous puissions voir en France, partout, des communautés qui rayonnent du Christ et où les hommes et les femmes de notre pays peuvent voir véritablement la vie de Christ à l'œuvre au sein d'une communauté et être touchés par l'Évangile. Et ça nous a donné une conviction que je vais vous présenter en six points, six éléments d'ADN finalement qui doivent accompagner notre prédication. Six éléments qui nous semblent être des éléments incontournables pour toutes nos communautés, de pouvoir grandir aussi. Il n'y a pas que ces six choses, mais on identifie cela aussi comme des défis pour nous au sein de Perspective, et je pense que c'est un défi pas simplement pour nous, pour donner sens finalement à ce que nous prêchons chaque dimanche et au-delà. Donc six éléments d'ADN que nous cherchons à développer pour que notre prédication aussi puisse avoir du sens et être portée par une vie authentique de nos communautés. La première chose qui doit être renouvelée dans nos églises et qui doit transparaître dans notre prédication, mais bien au-delà, c'est une authentique passion pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on veut mettre un accent sur le fait de proclamer et de vivre la réalité de la Seigneurie de Jésus-Christ, d'une manière passionnée. Parfois, la prédication comme la vie et la théologie de nos églises manifeste une passion pour, au mieux, une passion pour la Bible, pour la théologie, et pas toujours une passion pour le Christ lui-même. Et si la passion pour la Bible et la théologie, enfin surtout pour la Bible, est important, ça doit avoir une grande place, mais ça n'a de sens que dans la mesure où elle stimule notre confiance en Christ, notre amour pour sa personne et notre espérance d'être bientôt dans sa présence. Et si notre prédication ne véhicule pas cette réalité, et si la vie de nos communautés ne véhicule pas cette réalité-là, alors nous passons à côté, véritablement, de notre vocation. Nous devons développer une réelle passion pour Jésus, notre Seigneur, et nous devons communiquer une réelle passion pour Jésus. C'est lui que nous voulons connaître et faire connaître. Et par son esprit qui vient en nous, nous recherchons à vivre chaque jour dans une intimité relationnelle avec lui. Et il s'agit d'avoir là encore une prédication qui vise aussi à déconstruire parfois les fausses oppositions entre notre vie, je dirais, du dimanche et notre vie de la semaine, le sacré et le profane, enfin toutes ces, je dirais, ces fausses oppositions dans lesquelles trop souvent nos églises vivent. Et quand je dis nos églises, je parle des églises de Perspective. Voilà. Rien pour ce qui concerne les autres. Donc comment nous proclamons et nous vivons la Seigneurie de Jésus dans chaque domaine, pour chaque domaine de notre vie, 7 jours sur 7, et comment la prédication doit être ancrée, premièrement, dans cette vision de proclamer la Seigneurie de Jésus. Un deuxième élément d'ADN que nous voulons développer aussi et qui impacte la prédication, mais d'une autre manière, c'est une priorité donnée à ce qu'on peut appeler le discipulat relationnel. Si Jésus s'est adressé aux foules, si Jésus a prêché aux foules, il les a enseignés, il a guéri, il les a nourris, mais Jésus a surtout investi et a, on pourrait dire, prêché de manière, on va dire, non pas publique, mais privée, pour un petit nombre de disciples qu'il a pris avec lui, qu'il a formé, qu'il a préparé à poursuivre sa mission. Et si nos églises doivent se préoccuper de la prédication publique, elles doivent aussi, peut-être, et peut-être même encore plus, se préoccuper de comment nous enseignons relationnellement de un à un, comment des personnes peuvent être peuvent entrer dans un processus de discipulat véritablement suivi par des personnes, comment la parole de Dieu est enseignée au plus près de la vie de tous les jours et dans le contexte d'une relation personnelle. La prédication, voilà, comme là, quand je vous parle, c'est relativement impersonnel. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Et finalement, l'impact, voilà, je suis pasteur depuis 25 ans, je prêche depuis un peu plus de temps. J'ai arrêté de me faire trop d'illusions sur ce que les gens retiennent si il n'y a pas aussi un accompagnement personnel qui va redonner écho et qui va redonner chair à ce qui est prêché en chair. Et ça, c'est un véritable défi et quelque chose que nous devons développer dans l'ADN de nos églises, de donner une priorité, vraiment une place importante au discipulat relationnel. C'est quel impact ta vie a sur la vie de quelqu'un d'autre. Voilà. Comment le Christ qui vit en toi est déversé dans la vie d'une autre personne. Donc c'est une autre forme de prédication qui me semble tout aussi importante et peut-être, mais là c'est un biais personnel, peut-être encore plus importante. Et Jésus, s'il a prêché aux foules, d'ailleurs il ne se faisait pas trop d'illusions sur les foules, il a pris du temps pour ses 12, enfin même pour 70, pour les 12 et même pour 3 de ses disciples avec qui il a aussi passé encore plus de temps que les autres. Et nous ne pouvons espérer que ce que nous enseignons dans notre prédication pourra avoir un impact que Jésus lui-même finalement, et il savait qu'il n'y avait pas un si grand impact que ça dans sa prédication aux foules et qu'il s'est attaché à former, enseigner un petit noyau de disciples et même 3 d'entre eux de manière encore plus intentionnelle et précise. Et donc c'est, je crois, un défi, une chose que nous voulons développer, que dans l'ADN de nos églises, il y ait une priorité donnée au discipulat relationnel, à la prédication privée. Troisième élément d'ADN qui doit aussi donner corps à cela, c'est une valorisation des ministères dans leur diversité. L'Esprit-Saint donne à l'Église une diversité de ministères pour que les membres du peuple de Dieu soient formés et aptes à accomplir la mission de Jésus. Et pourtant, l'Église néglige parfois, trop souvent, les ressources donné par l'Esprit et s'appuie souvent dans nos communautés, dans les communautés de perspective, sur le ministère d'un seul et sur un seul type de ministère. Donc très souvent, on s'appuie beaucoup sur le ministère du pasteur dans nos églises. Et on a souvent un seul type de ministère pastoral. Alors, si on prend ne serait-ce que dans Éphésiens 4, où nous voyons une diversité de ministères, et là, dans Éphésiens 4, tous liés à la parole, ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur enseignant. C'est aussi dans une diversité de ministères que le Saint-Esprit veut aussi œuvrer au sein de la communauté. Or, très souvent, en tout cas dans nos églises, le ministère de la parole ou de la prédication, et aussi d'ailleurs beaucoup d'autres aspects du ministère, sont malheureusement concentrés dans la personne du pasteur, qui est souvent un pasteur berger, enseignant berger, voilà. On a peu de pasteurs évangélistes, peu qui ont, je sais que c'est un sujet délicat, une fibre aussi de prophétique, et aussi une fibre apostolique, même s'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui au sens du Nouveau Testament, au sens fort du Nouveau Testament des apôtres, mais dans cette dimension de la nouveauté apostolique, de celui qui défriche un champ nouveau, qui apporte l'Évangile quelque part pour la première fois, et qui, en ce sens-là, on pourrait, par analogie, donner ce ministère apostolique, donc une prédication quelque part, personne qui a ce don d'une prédication adapté à un lieu où l'Évangile n'a jamais été proclamé. Et ce sont des dons et ce sont des ministères. Et si l'Église ne reconnaît pas ces ministères, si l'Église ne reconnaît pas cette diversité donnée par l'Esprit de différentes manières de proclamer l'Évangile, différentes manières de prêcher, eh bien, nous avons aussi là un manque, une faiblesse et une carence parce que nous n'utilisons pas les ressources que le Saint-Esprit nous donne. Et donc, une de nos, là aussi, un souhait fort et quelque chose vers lequel nous travaillons, c'est cette valorisation des ministères dans leur diversité, afin que la parole de Dieu, dans toute sa richesse, puisse véritablement avoir son impact. Et au-delà de ces ministères particuliers mentionnés dans Éphésiens 4, il y a aussi le sacerdoce de tous les croyants. Tous les croyants sont appelés aussi à avoir chacun, avec ce que le Seigneur lui donne, aussi son rôle dans l'édification du peuple de Dieu et dans la proclamation de l'Évangile. Quatrième dimension d'ADN aussi, qui nous semble être important et que nous désirons approfondir, dans lequel nous désirons grandir, chose aussi où on reconnaît nos limites. Des églises aussi, nos églises qui doivent être pertinentes pour la ville ou missionnelles. L'église n'existe pas simplement pour elle-même, mais aussi l'église est envoyée dans le monde. La communauté est là, effectivement, pour glorifier le Seigneur, pour s'édifier, mais elle est une communauté d'envoyés. Et une communauté missionnelle, c'est une communauté où ce que nous faisons peut être davantage tourné vers l'extérieur en s'attendant à ce que des non-chrétiens puissent cheminer et goûter, expérimenter, voir ce que signifie la vie d'hommes et de femmes qui connaissent et qui marchent avec le Christ. Une communauté missionnelle ne sépare pas les bonnes œuvres, entre guillemets, de la bonne nouvelle. Une communauté missionnelle considère essentiel de pouvoir s'investir dans son quartier auprès de ceux qui l'entourent pour manifester l'amour de Christ, être enraciné, je dirais, dans le lieu, dans son lieu de témoignage. Et on a parfois des communautés qui sont, je dirais, qui vivent en vase clos. Parfois, je visite les communautés sur plusieurs années et on s'aperçoit que certaines communautés vivent vraiment en vase clos. Et au bout d'un certain temps, on a l'impression que les chrétiens n'ont plus d'amis non chrétiens. Comment peuvent-ils être témoins et comment peuvent-ils apporter le message de l'Évangile s'ils vivent en vase clos? Comment nos églises restent des églises missionnelles, comprenant qu'elles n'existent, que là où elles sont des communautés d'envoyés? Et comment nous formons aussi nos membres d'église pour la réalité, on pourrait dire, de l'église dispersée? Il y a l'église rassemblée, mais une bonne partie de la semaine, on est chacun dans notre lieu de travail, etc. On ne cesse pas d'être l'église, mais on est l'église dispersée. Mais comment l'église dispersée continue à être l'église en mission? Et une église aussi capable, là, sur le lieu de mission, de porter aussi une parole, une prédication adaptée. Très souvent, nous concentrons, et c'est peut-être là aussi le biais de notre tradition protestante, avec une place si importante à la prédication dominicale, et loin de moi de vouloir dire que ça n'est pas important, mais nous ne pouvons pas négliger finalement toutes les prédications sous d'autres formes qui doivent se faire aussi quand l'Église est dispersée. L'Église continue à être une Église qui proclame le Christ et en ce sens où la parole de Dieu doit continuer à résonner et à être proclamée. Mais pour cela, il faut que l'Église ait une conscience d'être une Église missionnelle, une Église constamment envoyée. Quand elle est rassemblée, quand elle est dispersée. Cinquième élément d'ADN que nous essayons de développer à perspective, élément pour lequel voilà, nous prions, Seigneur, aide-nous à grandir dans ce domaine-là, c'est une générosité pour le royaume de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » On constate pour nous-mêmes que parfois nous cherchons à construire notre propre royaume. Chaque pasteur cherche parfois à construire son petit royaume dans son coin. On est tourné vers garder les ressources pour nous-mêmes plutôt que de développer une vraie générosité où on investit pour le royaume de Dieu, où on n'investit pas simplement pour son église locale. On voit au-delà, on voit la réalité finalement de ce que le Seigneur est en train de faire aussi dans d'autres communautés autour de nous et au-delà, et comment on apprend à être vraiment généreux, pas simplement pour nous-mêmes. On apprend ça, on essaye de l'apprendre aux membres d'Église individuellement, la générosité, mais en tant que communauté, est-ce que nous sommes généreux aussi pour envoyer des serviteurs, est-ce qu'il y a aussi ce mouvement de générosité de nos églises? Tout ce que nous avons ne nous appartient pas, mais appartient au royaume de Christ, et nous sommes appelés à investir généreusement pour le royaume de Dieu, et pas simplement en pensant uniquement à nos besoins locaux et personnels. Et je dois dire que nos églises ont souvent beaucoup de difficultés à ce niveau-là, et c'est un grand défi pour nous. On manque souvent à la fois d'ouvriers ou de finances ou d'autres aspects, parce que nos communautés sont souvent préoccupées uniquement par ce qui se passe juste là, et on veut développer au contraire une grande générosité pour le royaume de Dieu. et au-delà de perspectives. Voilà. On assume le fait d'être une union d'église, on a des besoins internes, mais le royaume de Dieu, merci Seigneur, ne se limite pas à perspectives. Voilà. Et un sixième élément d'ADN qu'on essaye de développer et qui doit donner sens aussi à la prédication de l'Évangile, c'est cet engagement de tous pour la multiplication. Notre prédication, notre vie d'Église, nos ministères doivent être tournés vers la multiplication. La multiplication d'Églises, la multiplication des ministères, la multiplication des disciples. Et là, je veux simplement souligner surtout la dimension de multiplication d'Églises, qui est une préoccupation, je dirais, depuis toujours pour France Mission, mais d'autres aussi. Bien qu'on voit en France quand même un certain nombre d'unions d'églises qui, les décennies passent et il y a peu de nouvelles communautés qui sont implantées. Le fruit d'un pommier, ça n'est pas simplement une pomme, mais un autre pommier. Le fruit d'une communauté vivante de Christ, ce n'est pas simplement des disciples, mais c'est aussi d'autres communautés de disciples. La flamme apostolique ne doit pas s'éteindre dans nos communautés. On doit raviver constamment cette flamme. Toutes les églises devraient être impliquées dans au moins un des nombreux processus de multiplication d'églises possibles. Et c'est quelque chose sur lequel on essaye d'insister à perspective. Envoi d'un implanteur, soutien significatif à une implantation, peut-être une église multisite, multiplication de communautés sur un même lieu, ça c'est surtout dans les grandes villes comme à Paris, où il y a souvent des problèmes de locaux. Plusieurs communautés peuvent cohabiter sur un même lieu. Mais voilà, comment nos communautés sont consacrées à enfanter, en quelque sorte, d'autres communautés, auprès comme au loin. Nous voulons que l'Évangile de Jésus se répande dans toutes les sous-cultures de notre société. Il y a des pans entiers, souvent dans les villes, de sous-cultures, parce que c'est le monde du 21e siècle et comme ça, qui ne sont pas du tout touchés par l'Évangile. Et comment nous avons aussi une prédication adaptée à toutes ces sous-cultures. Comment la prédication de l'Évangile essaye de viser, de pénétrer des couches de la population que très souvent nos églises, en tout cas, ne touchent pas. Donc voilà six éléments d'ADN que nous voulons vivre dans la dépendance du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous rend capables d'être témoins, c'est lui seul qui peut convaincre les hommes et les femmes de leur besoin de salut et de la réponse qui est en Jésus. Mais nous croyons aussi que notre prédication, si elle n'est pas située, on pourrait dire dans un écosystème, dans une vie de communauté où sont présents et actifs ces six éléments d'ADN, nous ne prêchons jamais en vain. Merci Seigneur. Mais notre prédication, quelque part, n'est pas accompagnée par l'ensemble des éléments qui lui donnent sens, qui lui donnent son lieu d'être et sa pertinence. La prédication à elle toute seule je dirais, ne suffit pas. Elle doit être, à un moment donné, bien sûr, une parole de la part du Seigneur, mais qui est dans un écosystème qui lui donne son sens. Et nous croyons que cet écosystème, c'est une église, une communauté de disciples de Christ qui manifeste, en tout cas, ces six éléments d'ADN que j'ai brièvement esquissés. Un accent vraiment fort sur cette authentique passion pour Jésus, notre Seigneur. Une priorité donnée au discipulat relationnel, comment voilà, on s'attache à ce que nos vies impactent d'autres vies de manière personnelle, comment on valorise les ministères dans leur diversité, et donc aussi la diversité des types de prédications et des types de paroles que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir exprimer à travers les différents ministères de la parole que le Nouveau Testament nous montre, comment nos églises restent missionnelles, comment nous pouvons continuer à développer cette vision généreuse pour le royaume de Dieu et pas simplement pour notre petite tambouille locale. C'est le royaume de Dieu qui est en jeu, entre guillemets. Comment nous pouvons avoir cet engagement pour voir comme fruit de nos communautés, d'autres communautés, de même que le fruit véritable d'un pommier. Ce n'est pas une pomme, mais un autre pommier. Et c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous rêvons, dans Perspective, de voir se développer dans notre union d'église un mouvement de multiplication de disciples et d'églises, des disciples qui font des disciples et des églises qui implantent des églises. Et la prédication de l'Évangile doit se faire dans ce cadre-là, dans ce contexte, ou on pourrait dire dans cet écosystème, dans cette vie, dans cet ADN qui est développé dans nos communautés. Voilà ce que je voulais, dans un premier temps, vous partager. Voilà, je pense qu'on peut avoir un temps de questions et je peux dire davantage sur peut-être plus la prédication strictement. Si, voilà, selon les questions que vous avez, je laisse. Voilà.
Merci Patrice pour cette présentation, cette introduction dans la vie de Perspective, dans le cadre que vous fixez aussi autour de la prédication et comme support à la prédication. Je retiens de ce que tu dis une chose qui me semble être en relief aussi dans ce que tu as présenté, qui est la question de la transmission, au fond, transmettre une parole à des disciples pour faire d'autres disciples, transmettre, qu'une église transmette à d'autres pour faire d'autres églises. C'est une question importante qui nous a préoccupés, nous aussi, beaucoup à la Mission Timothée, depuis le début. Pour lesquels on a peut-être des réponses différentes, mais c'est une question qui est aussi au cœur de notre travail. Est-ce que vous avez des questions, justement ?
Est-ce qu'il existe une école pour former des éducateurs ?
Alors, nous n'avons pas, au niveau de Perspective nationale, une école spécifique de prédication. Dans les régions, en tout cas au moins dans plusieurs des régions, puisqu'on fonctionne aussi maintenant régionalement, on a quatre grandes régions, mais en fait après il y a aussi certaines régions sont aussi encore subdivisées, où il y a des formations à la prédication. Et le plus souvent, ce qui est mis en avant dans ces formations-là, c'est qu'on essaye d'enseigner différentes formes de prédication. Nous ne sommes pas focalisés sur, par exemple, la prédication textuelle pour dire « il n'y a que ça qui doit être fait ». Bien sûr, ça doit avoir une place importante, mais il y a aussi d'autres formes de prédication. Et donc, on essaye justement d'équiper les prédicateurs pour être capables de prêcher différents types de différentes façons. Voilà. Donc ça, souvent, c'est dans les différents lieux de formation. Donc on a une dynamique au niveau de la Bretagne, à travers Focus Bible, à la région centre, Théo Centre, où il y a à chaque fois des formations sur la prédication, mais qui en général mettent plutôt l'accent sur la diversité des formes de prédication. Alors, il y a une école de disciples à Champfleury, donc qui est plus orientée pour les jeunes. Donc, c'est 18-29. Et qui est en fait en lien avec les porteurs de flambeaux. C'est un réseau international. Voilà. Donc, on a... Voilà, cette année, il doit y avoir 12 ou 13 jeunes qui sont là en formation pendant 6 mois. Et après, on est très impliqués avec nos gens, l'Institut biblique de nos gens, la fac de Vaux-sur-Seine, et puis aussi l'Institut biblique de Genève, moins avec la faculté Jean Calvin, même si on est plusieurs à y avoir étudié, j'ai étudié aussi, mais on est moins impliqué avec cette faculté-là. Voilà, donc, mais en tout cas, avec les trois autres lieux, Nogent, IBG et Vaux, voilà, on est très impliqué. Voilà.
D'autres questions ?
Effectivement, on expérimente que c'est pas facile de les trouver. L'implanteur est une bête rare, mais nous croyons que le Seigneur donne à son Église ces ministères-là, et parfois c'est nous qui ne les reconnaissons pas. C'est vrai qu'il y a, c'est très personnel ce que je vais dire. Il n'y a pas que des implanteurs type qui peuvent implanter une Église. Mais c'est vrai que c'est important. Nous constatons, et il y a une étude aussi qui a été faite à la fois en Belgique et en France, que beaucoup de projets d'implantation échouent s'il n'y a pas justement ce ministère d'implanteurs. On a, et nous-mêmes on le constate, on a parfois dans des églises un groupe de personnes qui ont un cœur d'implanter et ils travaillent sur ce projet-là, et soit ça n'aboutit jamais, ou quand ça démarre, ça capote, parce que on n'a pas pris le temps de pouvoir identifier, prier, demander au Seigneur ce ministère aussi d'implanteur. Et alors, je dirais peut-être, nous, lorsque nous voyons un petit peu l'ensemble de nos pasteurs et ceux qui ont peut-être plus cette fibre d'implanteur, il y a une dimension, c'est premièrement parmi les qualités quelque part qu'on recherche, c'est quelqu'un qui peut fédérer fortement une équipe. Pendant des années, des décennies même, et pas simplement France Mission, hein, c'était partout, c'était comme ça. On envoyait un couple de pionniers quelque part tout seul, et là ils trimaient pendant 15 ans, 20 ans, voilà, et ils y laissaient souvent des plumes, enfin souvent la femme et les enfants surtout. On ne fait plus ça. nous en tout cas, on fait plus ça, on met un accent sur des équipes. Et un implanteur, typiquement, c'est quelqu'un qui saura rassembler une équipe. Pour, et si la personne ne sait pas faire ça, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Donc il y a une dimension dans ce ministère apostolique au sens très large. Hein, je ne suis pas en train de... voilà. Hein, une dimension aussi, on voit, l'apôtre Paul avait avec lui aussi, hein, Timothée, Tite, voilà, il embarquait avec lui toute une équipe de ministères. Et ça nous semble être un trait quand même assez fort d'un ministère de type plus apostolique. On peut retrouver assez souvent certains traits de caractère, même si les personnalités sont variées. Si vous vous souvenez, dans le livre des Actes, Jean-Marc, qui était parti avec Paul et Barnabas, les a laissés tomber. Enfin, il a fait demi-tour. Et un peu plus tard, quand Barnabas a voulu le reprendre, Paul a dit, ce gars-là, moi, j'en veux pas. Hein, il nous a laissé tomber une première fois. Moi, des gens comme ça, j'en veux pas avec moi. Et bien, ça ressemble beaucoup au tempérament des apôtres. Voilà, c'est des fonceurs et ils ont parfois un peu tendance à... La fibre pastorale d'un Barnabas n'est pas toujours très présente. Donc, il y a aussi un peu ce trait qui... et c'est pour ça que ce soit localement ou plus largement, c'est aussi l'importance de la complémentarité des ministères. Parce que, voilà, parfois, nos implanteurs peuvent aussi faire un peu de dégâts. Les pôles ont besoin de Barnabas aussi. Et plus tard, ils peuvent dire... amène avec toi Jean-Marc, il m'est bien utile pour le ministère. Ils peuvent reconnaître des années après que bon, peut-être qu'ils ont été un petit peu durs et qu'heureusement qu'il y a des Barnabas pour être un peu plus patient avec les autres. Donc c'est aussi un trait fort, on a besoin d'être quand même vaillant, mais ça peut parfois avoir aussi son côté un petit peu plus difficile. Donc voilà, deux traits en tout cas qui se distinguent par rapport. Et puis c'est vrai qu'un implanteur souvent c'est quelqu'un qui a quand même, il a un petit peu tous les autres dons, un petit peu, mais pas très fortement. Mais s'il n'est pas du tout évangéliste, pas du tout pasteur, il risque d'avoir un peu de mal. Alors, il y a quelques années, France Mission s'est impliquée à Madagascar. Donc, on a eu plusieurs pasteurs qui... donc, on a un pasteur qui est allé à Madagascar. Bon, il était malgache, il est retourné là-bas pour vraiment développer un petit peu la même chose que ce qu'il voyait en France avec France Mission. Mais nous avions décidé à l'époque... qu'on ne s'impliquerait pas officiellement, on va pas, qu'on ne développerait pas des églises France Mission à Madagascar. Donc, jusqu'à maintenant, on est resté sur cette ligne de se dire, voilà, on a des pasteurs qui vont là-bas pour enseigner, qui vont en Afrique, mais nous-mêmes, nous sommes restés, en tout cas, France Mission est restée très... la France, c'est déjà un vaste champ de mission. On veut se concentrer là. Lorsqu'on a des personnes qui ont un appel pour la mission Outre-mer, on a des partenaires avec la CIM, avec l'AEM. Voilà, donc ça se fait plutôt en partenariat avec d'autres missions. Mais nous-mêmes, on ne développe pas ce travail-là. Voilà. C'est peut-être en train de changer. Donc, voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, on est encore là.
Ouais. Donc, déterminer une stratégie particulière qui est mise en œuvre une étude, ou est-ce que c'est un peu en fonction des circonstances?
Ouais. En fait, il y a deux choses. C'est pour nous l'important, c'est l'implanteur et son projet. Donc ça, c'est le plus important, d'avoir une personne dont on reconnaît le ministère et qui a un projet clair qui nous semble cohérent, clair. Donc ça va déterminer. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on tend à favoriser les lieux où une église ne sera pas trop esselée. Donc on pense qu'on est déjà un petit peu trop éparpillé, et on aura plutôt tendance à favoriser des implantations d'églises pas trop loin de là où il y a déjà d'autres églises perspectives. Lorsque ça n'est pas le cas, comme l'année prochaine on va démarrer une implantation à Toulouse, or on n'est pas du tout présent dans le quart sud-ouest, ça signifie pour nous un effort soutenu pour encourager d'autres implantations d'églises dans la même région. Pour que, parce que dans la vie des communautés, alors même, prenons le cas où tout se passe très bien, la communauté se développe, l'implanteur, il vit très bien son ministère, et tout va bien. Bon, on a quand même besoin de relations. Alors il y a bien sûr les autres églises évangéliques, c'est très bien. Mais parfois on voit aussi que lorsqu'il y a localement des difficultés, on peut se retrouver très seul. Et donc, j'étais pendant 9 ans à Vendôme, dans Loir-et-Cher, c'est un petit peu au-dessus de Blois. Et notre église la plus dans le sud-ouest, c'est Sainte. Et c'est une église, une communauté qui est en difficulté depuis pas mal d'années. Mais on a aucune autre église juste à côté. Donc moi, je faisais 3 heures de route, 2 fois par mois, pour aller à Sainte, tout en ayant aussi une église, entre autres, à charge, et puis en étant président de notre union d'église. Et ça, on voudrait éviter. On voudrait éviter que des églises soient trop isolées, parce que lorsqu'on a besoin d'un coup de main un peu plus soutenu, c'est pas toujours évident d'avoir de l'aide. Donc on privilégie cela. Et alors c'est quelque chose qu'on n'arrive pas énormément à faire, mais il y a quelques lieux quand même où on parvient à le faire. C'est Daniel Lichty, un des membres de notre équipe de ministère de leadership, qui a beaucoup essayé de mettre en avant l'idée de réseau, de travail en réseau, plusieurs églises puissent travailler en réseau, puissent partager les ministères, puissent partager les ressources. Et ça, s'il y a des distances trop grandes, c'est pas tellement possible. Donc on essaye, quand on est présent dans une agglomération, on va peut-être essayer d'avoir 2-3 églises sur la même agglomération. C'est le cas à Nancy, à Strasbourg maintenant, dans différents lieux, je l'espère à Nantes bientôt.
Est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait des implantations d'églises qui soient fulgurantes? Est-ce qu'il y en a d'autres?
C'est-à-dire, fulgurantes dans quel sens? Dans leur existence ou dans leur croissance?
Dans leur maintien aussi. Est-ce que par ailleurs, vous avez eu des implantations qui ont été quelques années après des effondrements complets?
Ouais. On a un petit peu tous les cas de figure. France Mission a quand même travaillé aussi dans des petites villes. Même ces dernières années, on a implanté quelques églises dans des villages. On a donc à Loches, Loches, il y a 10 000 habitants, mais Descartes à côté, c'est 3 000 habitants. Langeais, un peu plus loin, c'est aussi 3 000, 4 000 habitants. Donc, c'est des petits lieux. Ce sont des lieux où ça prend du temps. et où justement on a besoin de travailler en réseau. Là, ça c'est indispensable. Donc on a des lieux où effectivement ça a été assez difficile et qu'on a même dû fermer après coup. Il y a eu pendant un temps voilà, un témoignage, il y a pu y avoir des conversions, une petite communauté, et puis finalement ça ne s'est pas maintenu. Donc on a quelques cas comme cela. Et puis, à l'inverse, on a des communautés qui sont implantées, je pense à Strasbourg, qui se sont développées très vite. Voilà. Donc, c'est très divers. Mais en général, on considère qu'il faut une bonne dizaine d'années pour qu'une communauté soit implantée, quoi.
Moi, j'ai trouvé remarquable que vous échappiez au piège de la satisfaction béate. Hein, ça marche, on est de bonnes églises, on grandit. C'est pas si souvent qu'on entend cette espèce de tristesse de dire oui, on grandit, mais c'est quand même assez peu. Vous avez aussi échappé au piège de la complainte en disant voilà, on n'y arrive pas, on ne fait rien du tout. Non, il se passe des choses, on est reconnaissant. Donc, moi, ça m'a beaucoup touché d'entendre ça. Votre premier point centré sur la personne de Jésus, franchement, on ne répétera jamais assez. Hein. C'est pas l'église locale le but, c'est pas le budget, c'est pas le pasteur, c'est le Seigneur Jésus. Que sa vie soit vue au travers de nous, tout ça, ça me fait du bien de l'entendre, hein, même si je le sais, ça me fait du bien de l'entendre. Après, la question que je me pose, c'est le rapport entre l'édification de l'église en elle-même et sa capacité de se projeter à l'extérieur. Dans les 6 points, il y a quand même une majorité de points qui sont orientés vers l'extérieur. Et c'est sans doute très, très bien, parce que le risque est important de se complaire, etc., de s'occuper de sa boutique, comme vous avez dit un peu. Et en même temps, si les chrétiens sont tout de suite orientés vers l'extérieur, leur témoignage risque d'être quelquefois léger ou simpliste. Et donc, bon, moi je suis pasteur réformé évangélique, on essaie de beaucoup enseigner. En fait, les gens ne sont quand même pas enseignés, mais on les enseigne toujours. Et puis après, on se dit des fois qu'ils sont tellement enseignés qu'ils n'ont même pas le temps de mettre en pratique ce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont reçu un enseignement, puis encore un autre, puis encore un autre. Mais l'inverse existe aussi. C'est-à-dire, l'enseignement, c'est juste aller faire des disciples. Alors, on va faire des disciples, mais on les enseigne à faire d'autres disciples. Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Ouais.
Et je songe à cette parole du livre des Actes, chapitre 16, où il est dit « Les églises se fortifient dans la foi » et augmenter en nombre de jour en jour. Et on a l'impression que l'augmentation en nombre découle, sans qu'on ait rien à faire, que se fortifier dans la foi. Et du coup, je m'interroge sur le sens de l'expression « se fortifier dans la foi ».
Ouais.
Bon, c'est pas une question. Hein,
mais je vais répondre quand même. Non. Mais... Oui. Je serais personnellement réservé sur une trop grande, je ne dis pas que c'est ce que vous avez fait, hein, mais une trop grande séparation entre l'édification et l'évangélisation. Que ce soit au niveau de la prédication, peut-être que ça c'est quelque chose que j'aurais pu souligner. Nous avons notamment dans nos... Ceux qui démarrent dans le ministère avec nous pendant 2 ans, on a des sessions de formation et une des sessions est consacrée à la prédication et notamment avec un atelier où on essaye d'accentuer le fait comment la prédication peut à la fois parler aux non-chrétiens et aux chrétiens. C'est un défi. Pourquoi un atelier ? C'est-à-dire que chacun, ils ont une prédication à préparer et ils la font et on en parle après. On décrypte, on dit voilà. Alors, en général, on leur demande de faire cela de manière ramassée, mais et après on analyse. Et on analyse avec un des filtres principaux, c'est le double public. Et nous, on insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que, pour plusieurs raisons. Là, je vais donner simplement la raison pragmatique, mais on pourra aller au-delà. De manière très pragmatique, et il y a encore pas si longtemps que cela, on avait cette conception, et c'était ce qui se vivait dans les églises. L'église rassemblée, c'est pour les chrétiens, le culte du dimanche, etc. Ça, c'est le rassemblement des chrétiens. Et puis, on fait des choses pour l'évangélisation par ailleurs. De plus en plus, les églises ont expérimenté la difficulté d'amener des non-chrétiens dans les choses qu'ils font par ailleurs, les actions d'évangélisation. Moi, quand j'étais petit, il y avait les films de Billy Graham, Accroche-toi, Peter, il y avait tous les films. Voilà. On avait des prédicateurs qui venaient prêcher, il y avait des tas de choses comme ça. Les églises se sont aperçues petit à petit qu'elles n'attiraient plus personne avec cela. Une chose qu'on constate de plus en plus ces dernières années, c'est que la plupart des personnes qui se convertissent ont cheminé pendant un bon temps dans la communauté chrétienne. C'est-à-dire que ce sont la plupart sont des gens qui sont venus au culte pendant des mois, parfois même des années, et l'aboutissement a été la conversion. Donc ça signifie que si nos prédications sont incompréhensibles pour des non-chrétiens, c'est un vrai problème. Parce que nous avons toujours dans nos communautés, et de plus en plus, un pourcentage non négligeable de personnes qui sont là et qui cheminent. Et donc, il faut aussi leur parler. Donc, c'est pour cela que moi, je dirais, je voudrais pas trop accentuer, même si, bien sûr, c'est une réalité, trop accentuer la différence entre une prédication qui édifie et on affermit la foi, et puis il y a d'autres lieux, dans un second temps, séparés, où on va évangéliser. La réalité, en tout cas, des églises, de manière très pragmatique, c'est que tu dois faire les deux choses en même temps. Mais, donc il faut apprendre à parler aux deux publics. Et je trouve que c'est probablement un des grands défis de la prédication aujourd'hui. Pour moi, chaque dimanche, quand je prêche, je veux que les chrétiens soient nourris, édifiés, mais je veux que ça soit aussi pertinent. Parce que je sais qu'il y a nous actuellement à Nantes, comme il y a un ministère particulier auprès des étudiants internationaux, on a à peu près 80-90 étudiants internationaux non chrétiens qui viennent le vendredi soir pour parler le français dans l'église, et on le fait autour d'un texte biblique, et il y en a quelques-uns qui viennent le dimanche. Bon, moi je veux chaque dimanche que ce que je prêche, ils comprennent, et qu'ils en retirent quelque chose. Et il ne s'agit pas, ma seule préoccupation pour eux, ce n'est pas simplement de leur dire chaque dimanche le message de l'évangile au sens, Jésus est mort pour toi, etc. Donc, dans ce que, sinon les chrétiens, même si c'est toujours édifiant qu'on nous rappelle la mort de Christ, au bout d'un certain temps, ils vont me dire, écoute, nous, on voudrait bien entendre quelque chose qui nous fait grandir. Donc, comment parler à ce double public ? Donc, ça, c'est un défi. Et pareillement, d'où aussi l'importance du second point d'ADN que j'ai dit, qui, lui, contrairement à ce que peut-être vous avez ressenti, n'est pas simplement tourné vers l'extérieur. Il s'agit de dire comment on accompagne dans un vrai discipulat. Comment on forme à une vraie vie de disciple et comment on s'implique de manière personnelle, et ça c'est vrai pour les pasteurs, mais pour chaque membre de l'Église, qui est-ce que ta vie est en train d'impacter aujourd'hui? Voilà. Et si on n'a pas cela comme préoccupation, et si les responsables d'Église, par exemple, se contentent, je force un peu le trait, se contentent de prêcher le dimanche, mais ne sont pas dans une relation de discipula avec des personnes en semaine où on se retrouve pour lire la parole ensemble, pour prier, pour voir concrètement, voilà, par rapport aux défis de ta vie, quelle est l'implication de ce que nous sommes en train de lire pour ta vie personnelle, eh bien, effectivement, on ne grandit pas dans la foi. Et ce disciple-là, même si peut-être on trouvera que le mot disciple-là, pour ce cas-là, est peut-être un peu forcé, mais on peut faire la même chose avec des non-chrétiens. C'est-à-dire comment tu veux peut-être passer du temps chaque semaine avec quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, qui n'est pas encore un disciple de Christ, mais avec qui je vais passer du temps et encore du temps, voilà, dans un relationnel. Et ça implique aussi que les membres du corps de Christ, parce que c'est eux qui doivent le faire. Il ne s'agit pas de dire « Ah, j'ai un ami avec qui j'ai échangé un peu, il se pose des questions sur la foi, je l'amène à mon pasteur ou à un ancien de l'Église. » Non, c'est à toi. Voilà. Ce n'est pas à moi en tant que pasteur de m'occuper de tes amis. Tu lis la Bible avec eux. Ah, tu n'as pas l'habitude de lire la Bible toi-même? Vas-y, commence. Parce qu'il va falloir que tu lises la Bible avec ton ami et il va te poser des questions. Tu n'auras pas toujours la réponse. À ce moment-là, tu peux venir me poser une question, mais sinon, tu creuses davantage. Voilà. Et on grandit dans la foi quand on enseigne les autres.
Bien, je vous propose de nous arrêter ici. Je vous rappelle que la prochaine conférence de la librairie qui clôturera le cycle à Alès ici, ce sera Parler avec la poésie protestante. Ce sera Philippe François qui viendra faire cette conférence. Ce sera au Capitole et ce sera le mardi 4 décembre à 18h30. Donc Parler avec la poésie protestante, une autre déclinaison de Parler avec les protestants. Et puis la dernière conférence du cycle, ce ne sera pas ici, ce sera à Paris. Mais je vous l'ai dit quand même, même si vous ne pourrez pas venir, mais si vous êtes à Paris, vous pouvez venir, vous serez les bienvenus. C'est le 11 décembre et ça sera avec Hubert Bost, ancien président de l'École pratique des hautes études, et Pascal Bruckner, sur la question de tolérer ou non. Jusqu'où peut-on tolérer ce qui est peut-être justement inacceptable et intolérable? Voilà, donc on terminera le cycle et cette année de conférence de l'Église Jean Calvin avec celle-ci. À Paris, et l'année prochaine, on abordera un autre thème, ce sera protestantisme et minorité. On commencera ici donc avec une conférence de Jérôme Gros-Claude sur le méthodisme français et son impact sur l'ensemble du monde réformé, car on le sait peu, mais le méthodisme a considérablement contribué à revitaliser l'ensemble du protestantisme français au XIXe siècle. Voilà, merci à tous pour votre présence et je vous propose de remercier Patrice Alcindor.
Merci à vous.